Radio Kapi.
Les états généraux de la justice auront lieu à Kinshasa du 6 au 13 novembre. Le ministre de la Justice l'a confirmé ce lundi au cours d'une conférence de presse. Une nouvelle politique nationale de réforme de la justice congolaise est attendue de ses travaux, affirme Constant Mutamba. SOS des habitants des quartiers Eradi et Ngafani, commune de Selembao à Kinshasa. Depuis le 19 octobre, une partie du grand collecteur qui canalise les eaux sur l'avenue Tsanganor a cédé, créant une tête d'érosion. Des maisons commencent déjà à être englouties. Ses habitants en appellent à l'intervention urgente des autorités. Monsieur l'abbé Kanozire Boniface est l'invité de ce journal. Il revient sur la cause de la béatification en cours au Saint-Siège à Rome de l'ancien archevêque de Bukavu, Mgr Munzii Rwamwenegabo Christophe. Il avait été assassiné le 29 octobre 1996 à Bukavu, au sud Kivu. Bonsoir à tous. Le ministre de la Justice confirme la tenue des travaux des États généraux de la Justice dès ce mercredi 6 novembre jusqu'au 13 novembre au centre financier de Kinshasa. Au cours d'une conférence de presse animée ce lundi à son cabinet, Constant Mutamba fait savoir qu'il faudra attendre de ses assises une nouvelle politique nationale des réformes de la justice congolaise. Celle adoptée en 2015 fera l'objet d'une évaluation afin de comprendre pourquoi sur les 350 résolutions prises, il n'y a que plus d'une centaine qui sont appliqués. Plus de 3500 participants venus de divers horizons sont attendus à ces assises, selon le ministre. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses, qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple congolais. Que le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, puisse se retrouver. Que cette justice puisse participer à l'amélioration du climat des affaires.
Dans le chapitre de la sécurité, notez que le centre de l'agglomération de Kaira, chefferie des Bachali, territoire de Massissi, est occupé par le 123 depuis ce lundi, après de violents combats dans la matinée contre les combattants VDP Wazalendo de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains, ANCDH, de Jean-Marie Bonané. Selon plusieurs sources dans la région, les combattants du 123 soutenus par le Rwanda, venus probablement de trois axes, notamment Kasopo, Butale et Kirumbu, ont pris d'assaut ce village, délogeant les Wazalendo de la colline Buhimba. La situation reste jusque ce soir tendue dans la zone. Quelques habitants de Kaira Centre ont fui ces combats et ont pris la direction de Bulindi, disent nos sources, qui redoutent une éventuelle avancée du M23 vers les chefs-lieux du territoire de Massissi. Le M23 occupe aussi depuis dimanche la localité de Kamandi, gîte située sur les rives du lac Édouard, à 10 km de Kanyabayonga dans le territoire de Lubero. Cette localité revêt une importance stratégique et économique pour la région. Les explications avec Martial Papimoukeba.
Kamandi Gite est un point d'accès lacustre qui relie plusieurs villages situés au bord du lac Édouard, dont la localité de Kavinyonge dans les territoires de Beni. Depuis Kamandi Gite, il est possible de rejoindre la localité de Kassindi-Port, offrant ainsi un passage vers la frontière stratégique de Kassindi-Lubiria. Ce point permet également d'accéder à Kiondo et au centre de Lubero pour atteindre la région du Graben dans les territoires de Beni. L'occupation des Kamandi Gite et de Vichumbi par les M23 permet aux rebelles d'exercer une influence sur le contrôle du trafic sur les lacs Édouard, ce qui leur offre la possibilité de percevoir des taxes illégales sur des dizaines de milliers de pêcheurs. cher. Les rebelles du M23 ont ouvert un nouveau front dans les territoires de Walikale et continuent leur progression dans celui de Lubero malgré des avancées dans les processus de paix de Luanda. Des experts de la RDC et du Rwanda ont convenu d'un plan de désengagement des forces et de neutralisation des FDLR, un accord qui nécessite encore la validation des ministres des Affaires étrangères des deux pays lors de la prochaine réunion prévue le 16 novembre à Luanda. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Insécurité aussi à Kalemi dans le Tanganyika. On y signale une recrudescence du banditisme urbain. Le mouvement citoyen Parlement Debout Sans Tabou annonce plusieurs cas de cambriolage et d'agression dans la ville de Kalemi ces derniers jours. La mairie de Kalemi a distribué des vuvuzelas aux chefs des quartiers et des avenues pour lutter contre ce phénomène. Le point avec Paula Munanga.
Le président du mouvement citoyen Parlement Debout Sans Tabou indique que le dernier cas en date est survenu dans la nuit de samedi à dimanche. C'est le cambriolage des boutiques par des inconnus. Des maisons d'habitation ont été aussi dévalisées par des bandits armés. Et deux hommes ont été agressés à l'arme blanche par des malfrats. Le président du mouvement citoyen Parlement Debout Sans Tabou appelle les autorités à multiplier les efforts pour lutter contre ces phénomènes. Nathan Mugisho.
Ce que nous demandons alors au gouvernement, c'est de fournir beaucoup d'efforts. Tout ce que la population attend actuellement de ces gouvernements, c'est la sécurité.
Pour parer à cette montée de la criminalité à Kalemi, le maire a remis des vuvuzelas dans plusieurs quartiers et avenues de la ville. Les habitants du quartier Abattoir, par exemple, ont bénéficié d'une dizaine de ces instruments et saluent l'initiative de l'autorité urbaine. Nous utilisons ces trompettes en cas de danger. Nous demandons aux autorités d'ajouter encore les vuvuzelas. Vuvuzela est un instrument qui nous aide d'un grand secours lorsqu'il y a une attaque des voleurs. Chez nous, sur l'avenue Kalunga, nous l'avons déjà utilisé une seule fois. Des bandits ont tenté de voler des chèvres, mais ils n'ont pas pu. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
C'est le désespoir pour de nombreux habitants vivant à la frontière des quartiers Eradi et Ngafani dans la commune de Selembao à Kinshasa. Depuis le 19 octobre, une partie du grand collecteur qui canalise les eaux sur l'avenue Tsanganor a cédé, créant une tête d'érosion. Depuis, ils n'ont plus accès ni à l'eau potable ni à l'électricité. Des pentes des parcelles sont englouties dans cette grande crevasse. Des parties de certaines maisons restent suspendues dans le vide. Plusieurs familles quittent déjà le coin, mais ceux qui y restent, puisque ne sachant où aller, appellent à l'aide pour combattre cette érosion qui est encore à son début. Étienne Lusumbu et Babel Mpongo nous en parlent dans ce reportage.
Nous sommes sur l'avenue Tsanganor, ici. Depuis le 19 octobre, la terre continue de s'écrouler. De nombreuses personnes abandonnent leurs habitations, craignant pour leur vie. C'est le cas de Michel et sa famille.
Là, il y a érosion. C'est pour ça que nous sommes en train de détoler, parce qu'il n'y a pas moyen encore d'habiter à Célé ici. Nous sommes logés chez les voisins.
Autre problème, depuis cette pluie, cette partie n'a ni eau de la régie des eaux ni électricité. Mais bien au-delà, un autre danger les guette. Pierre Yembi, promoteur de l'école Le Canon.
Il y avait tout au long de ces gros collecteurs des tuyaux d'eau, des poteaux de la SNEL, tout est parti. Alors, un sérieux problème encore de pylônes haute tension de la SNEL, c'est à 10 mètres, la grande route bypass qui amène Kinshasa, Congo. Centrale, c'est à 100 mètres.
Le bourgmestre de Selembao appelle ses habitants au calme. Mathias Womumu.
On a effectué double descente avec l'agence congolaise des grands travaux et une société chinoise Sopeco qui était venue évaluer le dégât pour qu'il commence les travaux. Ils m'ont demandé qu'on puisse dégager d'abord les câbles de la SNEL. J'avais déjà saisi les responsables de la SNEL pour qu'ils puissent dégager les câbles pour que cette société commence les travaux.
Rappelons que ces grands collecteurs d'eau reliant les communes de Mongafula et Selembao a été construit en 1981.
Et puis en Ituri, plus de 11 700 déplacés vivent sans assistance depuis près de 3 ans dans le site de l'ISP à Bounia. D'après des témoignages recueillis sur place, ces personnes qui ont fui les exactions des miliciens depuis au moins 6 ans dans le territoire de Djougou vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ces déplacés qui attendent désespérément le rétablissement de la paix dans leur village d'origine disent être carrément abandonnés par le gouvernement. C'est un reportage de Sadiki Aboubakar.
Quand on entre dans le site des déplacés de l'ISP Bounia, ça sent la misère. Cette phrase est connue de tous ici. Des abris en lambeaux, dont certains faits avec des bâches datant de 2019. Pas de nourriture, ni de vêtements. La dernière assistance humanitaire est intervenue dans ce site il y a environ 3 ans. Samuel Nguna, un enseignant, vient de passer une année et demie dans ce site.
Je n'ai jamais vu l'assistance depuis que je suis là. Dans une ville où nous n'avons jamais été, ça nous crée des problèmes. Le fait d'aller chercher et revenir, mais au village, à part l'enseignement, on vivait très bien.
Imane Issifa Georgine, une autre déplacée, déplore que les déplacés d'autres sites reçoivent régulièrement une assistance en vivres, mais pas eux.
Pourquoi les déplacés de Telega et Katoto sont souvent assistés et nous du site de l'ISP et Kigonze, on ne nous assiste plus? Et ce sont seulement les déplacés de Telega, Mbala, Katoto et Katirogo qui méritent de l'assistance? Que les autorités nous le disent. Et si c'est le cas, qu'ils nous garantissent la paix dans nos villages et organisent notre retour.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de la CNR, Commission nationale pour les réfugiés, n'ont pas abouti. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Au Kasaï central, la nouvelle société civile congolaise attend voir dans le budget 2025 sous examen la prise en compte des projets en souffrance d'exécution dans cette province. Dans une déclaration faite ce lundi, le coordonnateur de cette structure appelle les députés élus du Kasaï central à s'y impliquer, surtout à se battre pour l'électrification et le désenclavement de la province. Albert Ngalamouloumé est dans ses propos recueillis par François Kadima.
Nous voulons, nous en tant que société civile, que les problèmes, les projets du Kasaï central soit prise en compte dans ces budgets exercice 2025. Nous avons beaucoup de projets qui ont connu faible taux d'exécution. Certains n'ont même pas connu un simple débit d'exécution. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été inscrit dans les budgets des exercices passés. C'est pourquoi nous voulons que cette fois-ci, que les parlementaires, que les élus puissent marteler sur ces points pour que nos projets soient inscrits dans les budgets, que les projets trouvent leur financement dans les budgets de notre pays. Nous avons, par exemple, le projet de la modernisation, la construction et la modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Ces projets qui piétinent par manque de moyens, les projets de la construction de la route Kananga-Mbouji-Mayi et Kananga-Lavari-Urbaine. Il y a même le projet de Katende, la construction du barrage hydroélectrique de Katende. Il y a aussi le barrage de Mbombo.
Actualité internationale.
Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, en guerre contre les paramilitaires, a annoncé un remaniement ministériel avec le remplacement de 4 ministres. Il s'agit des ministres des Affaires étrangères, des médias, des affaires religieuses et du commerce. Le Conseil n'a pas révélé les raisons de ce remaniement, mais il coïncide avec une montée de la violence dans l'État d'Al-Jazira, au sud de la capitale Khartoum et dans la vaste région du Darfour Nord, à la frontière du Tchad. L'annonce faite hier soir intervient alors que le Soudan compte plus de 11 millions de déplacés, soit le plus important déplacement de population au monde. Ce pays est menacé de famine et est aussi à la recherche d'une aide internationale selon l'ONU.
L'invité.
Le 29 octobre dernier, c'était le 28e anniversaire de l'assassinat de l'archevêque de Bukavu, Mgr Muzii Rwamwenengabo Christophe. Il a été abattu le 29 octobre 1996 en plein centre-ville du quartier Nyawera à Bukavu. La cause de sa béatification est en cours au Saint-Siège à Rome. Pour en parler, nous recevons dans ce journal M. l'abbé Kanozire Boniface qui fait le suivi de cette cause en sa qualité de vice-postulateur de la cause Muzii Rwa. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Abbé Boniface Kanozire, bonjour.
Bonjour Jean Kassami.
L'archidiocèse de Bukavu a commémoré les 28 ans depuis l'assassinat de Mgr Muzii Rwa. Vous avez introduit un dossier pour demander que Muzii Rwa soit béatifié. Peut-on savoir comment évoluent ces dossiers-là?
Oui, nous avons introduit les dossiers au niveau des Saint-Siège. Pratiquement en 2021 que nous avons commencé la phase romaine, après avoir terminé ce qu'on appelle la phase diocésaine. Mais quand on compte les années, Rome prend la phase diocésaine comme une phase préliminaire. Et donc, il ne faut pas compter comme si la cause a commencé en 2016, même si c'est à ce moment que nous avons commencé les travaux. Mais il faut comprendre que la cause a commencé en 2021, à partir du moment où elle a été acheminée à Rome. Bon, la cause évolue bien. Nous n'avons pas jusque-là eu d'obstacles pouvant nous faire penser qu'il y aurait quelconque blocage par rapport à la cause. Je suis en contact avec le père Sylvestre Tchebolada, qui est d'abord le postulateur général de la Compagnie de Jésus, donc des Jésuites, donc qui suit toutes les causes des Jésuites au monde, mais aussi qui suit la cause de Mozir, Mozir lui-même qui fut Jésuite. Et le père est optimiste, il dit que la cause avance. L'unique souci que nous avions a été levé. Il fallait réunir une affaire de 183 écrits, comprenant alors des lettres personnelles, comprenant des lettres pastorales, comprenant des brochures, comprenant des livres, comprenant des revues, parmi lesquelles ce que Monseigneur a écrit, on appelle ça scriti editi, et ce qu'on a écrit sur Monseigneur, scriti non editi. Et donc il fallait réunir cela. Nous avons fait un effort pour consulter les grandes bibliothèques de la place, bibliothèques ecclésiastiques, à savoir la bibliothèque d'abord du Grand Séminaire Théologal de Moressa, la bibliothèque du Collège Alfagiri, des archives de la Kiri diocésaine à Bukavu, la bibliothèque des Jésuites à Lubumbashi, la bibliothèque des Jésuites à Kinshasa, mais aussi les archives diocèse de Kasongo où il a vécu. Et jusque-là, nous avons réuni que, je crois, 113 écrits de Muzihirwa et sur Muzihirwa. On nous disait qu'il restait encore autour de 70. Alors là, on commençait vraiment à avoir un peu des soucis parce que Rome tenait à ce que tout ce qui a été dit sur Muzihirwa, il le trouve. Et tout ce que Muzihirwa a écrit pour voir s'il n'y a rien contre la foi et la morale.
Alors, monsieur l'abbé Kanoziré, tout marche comme sur des roulettes.
Le postulateur nous a donné une bonne nouvelle pour dire qu'il a pu travailler pendant tout l'été avec trois confrères jésuites. Et il y a des documents, même des sources intéressantes à la cause, qu'il a pu découvrir à Rome et dans les archives de la Kyrie jésuite et qui lui a permis suffisamment d'avancer. Et donc, jusque-là, il est en train de faire un rapport sur les écrits de Muzihirwa. Après avoir analysé ces rapports, il va les présenter, n'est-ce pas, au rapporteur général de la cause. C'est un spécialiste en histoire et archivistique nommé par Rome pour accompagner la cause. Parce que quand Rome trouve que la cause est sérieuse, il nomme quelqu'un pour pouvoir l'accompagner et aussi pour pouvoir enlever les doutes ou les difficultés éventuelles.
Peut-on comprendre par là, monsieur l'abbé, que la cause de Muzihirwa est à sa phase terminale?
Maintenant, c'est à la phase terminale. Nous avons des phases. Il y a la phase diocésaine qui est terminée depuis 2018. Maintenant, il y a la dernière phase, la phase romaine, au cours de laquelle il doit être proclamé martyr. Mais comme j'ai dit, pour proclamer quelqu'un martyr, on doit voir tout ce qui a été écrit par lui et tout ce qui a été dit sur lui et on doit tout analyser. Et interroger tous les témoins.
Une fois proclamé martyr par le Saint-Siège, est-ce que cette proclamation pourrait influer quelque part pour que la justice transitionnelle soit très bien suivie par la communauté internationale?
Nous, on ne regarde pas du côté de la justice transitionnelle. La proclamation de quelqu'un comme martyr est un événement ecclésial, pastoral et spirituel d'abord.
Monsieur l'abbé Kanoziré, je vous dis merci.
Merci pour Radio Okapi.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Billy Landry Betou, présenté par Noëlla Lozito, dans une coordination de Richard Junior Kamunga. Merci de rester à l'écoute des programmes de Radio Okapi.